et dans les églises où j'ai l'occasion de partager le message, j'avais à cœur de partager un verset qui se trouve dans les chapitres 13 à 17 de l'évangile de Jean. Si vous vous souvenez, ce sont les chapitres qui nous rapportent la dernière soirée de Jésus avec ses disciples, pendant laquelle il a voulu prendre le repas de la Pâque avec eux, pendant laquelle il a aussi instauré la Sainte Cène. On se souvient qu'il a lavé les pieds de ses disciples, et ensuite il leur a parlé longuement. On appelle ça son dernier discours, mais en fait c'est aussi beaucoup d'interactions avec ses disciples. Il répond à leurs questions, il les prépare pour ce qui va arriver, parce qu'on sait qu'ensuite il y a la trahison de Judas, et va suivre bien sûr son arrestation, et puis quelques heures plus tard, sa crucifixion. Et donc dans ce passage aussi se termine par le chapitre 17, qui est la longue prière de Jésus pour ses disciples, une prière qu'il adresse à son Père céleste. Donc. Et donc juste avant cette dernière prière de Jésus, il y a ce verset dans Jean 16, 33, dans lequel Jésus dit à ses disciples, « Vous aurez des tribulations dans le monde. » Dans d'autres traductions nous disent, « Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, ou vous aurez à souffrir dans le monde, pour ne citer que quelques-unes. » Donc c'est le thème de mon message ce matin. Et je sens déjà des gens qui se disent, « Ah, mais si seulement Jean-François avait fait son message, peut-être ça aurait été un sujet plus intéressant que celui-ci. » Alors, en fait, est-ce que ce verset nous dit vraiment ça? Est-ce que c'est la totalité de ce que dit ce verset? C'est pour ça qu'il est parfois bon de vérifier dans nos Bibles si l'orateur nous transmet bien, fidèlement, la parole de Dieu. Et donc, si on regarde l'ensemble de ce verset, on voit que ce qu'il nous est dit, en fait, c'est Jésus dit donc à ses disciples, « Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. » Mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. Donc on voit que vous aurez des tribulations, c'est pris entre deux couches, dans lesquelles le Seigneur dit, je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi, et l'autre couche, c'est prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. Donc oui, le Seigneur dit à ses disciples qu'ils vont passer par des souffrances, des afflictions, des tribulations, mais ses disciples auront la possibilité de traverser ces souffrances, en ayant la paix en lui, et en prenant courage, et en prenant exemple sur lui, et ça s'applique aussi à nous aujourd'hui. Je vais prier, et on va aller un petit peu plus loin dans ce message. Père Céleste, notre Dieu, merci pour cette belle occasion, ce matin, d'être ensemble, de t'adorer, de te louer, de se commémorer le sacrifice de Jésus-Christ, ton Fils, de méditer sur ta parole. Veuille nous parler ce matin, veuille toucher nos cœurs, veuille nous conduire par ton Esprit Saint, que nous puissions apprendre des choses sur toi et sur ton Fils, et sur ton Esprit Saint, des choses qui vont nous encourager face à peut-être des perspectives de difficultés, d'épreuves, de souffrances que tu as annoncées à tes disciples et que nous savons est le lieu commun, l'expérience commune de tes disciples sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons voir premièrement que dit le Seigneur sur ces tribulations que ses disciples auront à souffrir dans le monde, donc nous y compris, et dans un deuxième temps, qu'est-ce qu'il a dit justement dans l'ensemble de ces chapitres qui permettent à ses disciples et donc à nous de traverser ces épreuves. Alors, premièrement donc, les tribulations. Je me limite bien sûr à celles qui sont décrites dans ces chapitres. On pourrait faire une liste longue de toutes les souffrances et difficultés que le chrétien rencontre, mais on va se limiter à celles que Jésus a indiquées à ses disciples. Donc premièrement, il dit qu'ils seront haïs du monde et persécutés. Il nous dit, par exemple, au chapitre 15, verset 18, « Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Et un peu plus loin, au verset 20, « Souvenez-vous de ce que je vous ai déjà dit, le serviteur n'est jamais plus grand que son maître, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. » S'ils ont gardé mes paroles, ils garderont aussi les vôtres. Mais c'est à cause de moi qu'ils agiront ainsi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Un peu plus loin, il dit « Celui qui a de la haine pour moi en a aussi pour mon Père. » Donc Jésus a annoncé à ses disciples qu'ils seraient haïs, qu'ils seraient persécutés, et il leur montre que cette persécution, au-delà de ses disciples, elle est tournée vers le Seigneur lui-même. Et si elle est tournée vers le Seigneur Jésus lui-même, elle est tournée contre Dieu le Père lui-même. Et donc, en quelque sorte, nous sommes identifiés à Jésus dans la persécution qu'il a subie lui-même sur cette terre, en prenant part, nous aussi, à ces persécutions. Et nous savons bien que, dans certains pays du monde, la haine subie par les chrétiens est beaucoup plus intense que ce que nous avons actuellement dans notre pays. On peut remercier le Seigneur pour ça, et bien sûr prier pour nos frères et sœurs dans d'autres parties du monde, tout en sachant que les choses peuvent changer, et que même dans nos pays, la situation peut changer rapidement. Et donc ces paroles, peut-être, vont nous encourager et nous préparer. Ensuite, donc, deuxième source d'affliction dans ce monde, eh bien, c'est Satan et son action dans l'Église, sur l'Église. Et donc, à ce sujet, il y a cinq mentions du diable, de Satan, dans ces cinq chapitres. Il nous est dit que le diable avait semé dans le cœur de Judas le projet de trahir son maître et de le livrer. Ensuite, il nous est dit un peu plus loin que quand Judas a reçu le morceau de pain donné par Jésus, qui devait désigner le traître, Satan est entré en lui. Donc on voit que Satan peut avoir une influence sur certains individus qui ne sont pas complètement soumis à Dieu, qui ont laissé justement de l'emprise à Satan dans leur vie. Un peu plus loin, dans Jean 14, 30, Jésus, à la fin, il parle de l'image de la vigne et des sarments, et il dit « Désormais, je n'aurai plus guère l'occasion de m'entretenir avec vous, car le dominateur de ce monde vient. » Ce n'est pas qu'il ait une prise sur moi, mais il faut que le monde reconnaisse que j'aime le Père et que j'agis conformément à ce qu'il m'a ordonné. Donc le dominateur de ce monde, le prince du monde. Et je pense que dans ce passage, il fait allusion au fait qu'il y a une troupe de soldats qui vient, qui s'approche de Jésus pour l'arrêter. Et donc il dit « le prince du monde vient », ça veut dire que le diable peut utiliser même les autorités politiques, militaires, policières, pour faire son œuvre contre l'Église de Jésus-Christ. Au chapitre 16, il nous est dit que le prince du monde, le dominateur de ce monde, est d'ores et déjà condamné. Donc on voit qu'il a une certaine puissance, mais en même temps, il est déjà vaincu par le Seigneur. Donc nous ne devons pas le considérer comme un Dieu qui est à l'équivalent de puissance du Dieu créateur. Et dans sa dernière prière, le Seigneur demande à Dieu le Père de préserver ses disciples du malin, c'est-à-dire du diable. Voilà. Donc là, c'est les deux premières sources de tribulation, la persécution, et puis on sait que Satan est derrière, mais que son action est limitée. Ensuite, donc, il y a la trahison de Judas, qui est bien sûr une source de souffrance, d'affliction pour le Seigneur, pour ses disciples, et nous aussi, nous pouvons être confrontés dans nos vies à des trahisons, et nous est dit même dans Matthieu 24, où le Seigneur enseigne sur la fin des temps, il nous a dit « à cause de cela, beaucoup abandonneront la foi et se trahiront et se haïront les uns les autres ». Donc ça fait partie des souffrances qu'on peut recevoir en tant que disciples, de voir des personnes qui trahissent le Seigneur. Et bien sûr que Dieu nous garde, nous-mêmes, de devenir des traîtres, même quand la pression va devenir plus grande, que le Seigneur nous garde fidèles et que, au lieu de nous trahir, et de nous haïr les uns les autres, nous allons rester dans la communion et l'unité et l'amour fraternel. Ensuite, une autre source de souffrance, c'est le reniement. On voit que Pierre a renié le Seigneur et que ses disciples l'ont abandonné, ils ont pris la fuite. Et là aussi, ça peut être une déception si nous voyons des frères et sœurs abandonner le Seigneur, le renier, et là encore que Dieu nous garde de le renier, même si on a vu dans le cas de Pierre, que le Seigneur est miséricordieux, qu'il accorde son pardon. Voilà, ça c'était un petit survol des afflictions dont le Seigneur parle dans ces chapitres. Et maintenant, tournons-nous vers les encouragements qu'il donne à ses disciples et qu'il nous donne à nous-mêmes. Il dit, je vous ai ainsi parlé pour que vous ayez la paix en moi, donc je pense que ça se réfère à l'ensemble de ce chapitre. Donc la partie 2 du message, courage, j'ai vaincu le monde. Alors, c'est clair que ces chapitres sont très denses, très touffus, il y a beaucoup de pensées, et c'est une grande richesse. C'est difficile de les résumer en quelques mots, mais j'ai tenté de donner quelques points, les points principaux. Donc le Seigneur, il révèle et affirme son identité. Il dit, je suis le Seigneur et le Maître, je suis venu du Père et je retourne à lui. Donc il montre clairement sa divinité. Il se présente comme le seul sauveur en disant « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi ». Il démontre et affirme une unité parfaite avec le Père, puisqu'il dit notamment « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Il répond aux prières, il connaît l'avenir, il démontre une parfaite maîtrise des événements, il sait exactement ce qui va se passer au détail près. Et donc nous aussi, nous pouvons être encouragés quand nous tournons nos regards vers le Seigneur, nous méditons sur lui, sur ses attributs, sa seigneurie et son amour. Il révèle le Père ensuite, donc par exemple, il dit comme celui qui m'a vu a vu le Père, et par beaucoup d'autres manières, il révèle le Père. Il manifeste son amour à ses disciples avec le lavage des pieds, qui est un précurseur de la croix, pendant laquelle il va prendre leurs péchés et nos péchés. On voit qu'il passe du temps avec ses disciples, il aime passer du temps avec eux, il aime répondre à leurs prières, il n'est pas en train de se dire « Ah, voilà, c'est le moment pour moi, il faut que j'aille voir mes disciples, que je leur fasse un enseignement ou quoi que ce soit ». Il aime être avec ses disciples, et encore aujourd'hui, il aime être avec son Église, il aime être présent au milieu de nous. Et ça, c'est un grand encouragement pour nous face à nos afflictions et nos souffrances. Et si la persécution devient plus forte dans l'avenir, souvenons-nous donc de son amour. Il leur donne une perspective éternelle en leur disant qu'il va leur préparer une place, il reviendra les chercher, il ne les laisse pas orphelins. Ensuite, c'est encore un autre grand thème de ces chapitres, il révèle le Saint-Esprit qui va donc leur envoyer, que le Père leur envoie, que lui-même leur envoie. Et le Saint-Esprit est appelé le Consolateur, l'Avocat, l'Esprit de vérité. Il enseigne et rappelle ce que Jésus a dit. Il rend témoignage de Jésus, il convaincra le monde de péché, de justice, de jugement. Donc nous aussi, nous avons le Saint-Esprit qui nous aide dans nos différentes afflictions et dans nos différentes détresses, et nous pouvons nous rappeler toutes les promesses qui concernent le Saint-Esprit. Ensuite, d'autres sources de courage, il commande donc à ses disciples de refléter ses relations par l'amour fraternel. Donc il y a bien sûr un grand encouragement dans la communion fraternelle, l'amour fraternel, la prière les uns pour les autres, etc. Tous les commandements les uns les autres que le Nouveau Testament nous donne, et ça va nous aider aussi à traverser les épreuves de la vie et peut-être de la persécution. Il appelle ses disciples à être ses témoins, même au milieu de ces persécutions. Il leur donne beaucoup de promesses, dont la paix, la joie, la réponse aux prières. Il leur explique comment demeurer dans son amour en gardant ses commandements et promet une révélation spéciale à ceux qui demeurent dans son amour. Et ensuite, j'ai laissé les deux points importants pour la fin, puisque je vais les développer un tout petit peu plus. Il leur révèle la Trinité et les relations au sein de la Trinité entre le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et il invite ses disciples, c'est-à-dire nous, à partager ces relations au sein de la Trinité. Donc ça va être l'objet de mon transparent suivant, enfin de ma diapositive suivante, qui sera plus ou moins la dernière de ce message. Donc là, c'est un certain nombre de versets. Dans Jean 17, donc, qui est la prière du Seigneur Jésus, dans lequel on voit ces différents thèmes qui réunissent les personnes de la Trinité, la gloire partagée, l'unité parfaite, l'amour partagé, et comment les disciples sont intégrés à ces différents thèmes au sein de la Trinité, je ne sais pas. Donc je vais les lire. J'ai mis en rouge ce qui concerne la gloire, en noir ce qui concerne l'unité, et en vert ce qui concerne l'amour. Donc je commence. Je t'ai glorifié sur la terre, donc c'est Jésus qui parle à son Père. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi je sois en eux. Voilà, ce sont des versets assez riches, comme vous pouvez le voir, qui contiennent beaucoup d'informations. Si on prend ce premier thème en rouge, la gloire, on voit que Jésus a glorifié son Père. Il demande au Père de le glorifier maintenant, de la gloire qu'il avait auprès du Père avant que le monde fût. On sait que pendant sa période, sa vie sur terrestre, c'est ce qu'on appelle la période de son humiliation. Il a renoncé à sa gloire céleste, mais il l'a retrouvée ensuite. On voit donc qu'il y a un échange de gloire entre le Père et le Fils qui peut glorifier le Père qui veut glorifier le Fils. Il nous a dit aussi, Jésus nous dit aussi que le Saint-Esprit le glorifiera, parce qu'il nous rappellera tout ce qu'il a enseigné. Donc le Saint-Esprit cherche à glorifier le Fils, qui cherche à glorifier le Père. Mais il nous a dit au verset 22, quelque chose qui est surprenant, « Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Donc Jésus a donné à ses disciples la gloire que le Père lui a donnée. On a du mal à comprendre ce que ça veut dire. Entre parenthèses, donc la gloire, c'est l'ensemble des attributs de Dieu, l'ensemble de ses qualificatifs, sa beauté, sa perfection, sa sainteté, son amour, sa justice, tout ça, ça constitue sa gloire. Et donc il nous est dit que Jésus nous donne de partager sa gloire, peut-être parce qu'il nous transforme à son image, et comme nous sommes transformés à son image, nous reflétons cette gloire. Donc, et il nous est dit aussi que Il veut que nous soyons là où il est pour que nous puissions contempler sa gloire. Et si on pense à ce passage où il est question de la vigne et des sarments, Jésus dit aussi « Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. » Donc nous glorifions aussi Dieu en portant beaucoup de fruits. Donc ce partage de gloire au sein de la Trinité, c'est comme si nous sommes associés à ce partage de gloire. Si on prend maintenant le thème de l'unité, là encore, donc on voit cette unité entre le Père et le Fils à laquelle nous sommes associés, donc au verset 21, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous. Donc le Père est dans le Fils est dans le Père, c'est une belle image de leur unité parfaite, et il veut que nous soyons un en eux. Et un peu plus loin, il est dit « Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. » Donc là encore, on voit cette unité parfaite à laquelle nous sommes invités, que nous sommes invités de partager avec les trois membres de la Trinité. Alors bien sûr, notre unité terrestre en tant que chrétien, elle est limitée pendant notre vie sur cette terre. Mais en tout cas, nous pouvons chercher à travailler à l'unité spirituelle avec tous les vrais enfants de Dieu. Et nous pouvons aussi avoir une image de ce qui sera dans l'éternité une fois que nous serons débarrassés de notre ancienne nature. Et donc je pense que le Seigneur nous invite à quelque chose qui va être très très beau, cet échange de gloire, cette unité parfaite. Et le troisième thème, c'est l'amour. Donc dans ces versets, il nous est dit que, si on va à la fin du verset 23, que le Père a aimé les disciples comme le Père a aimé le Fils. Donc ça, c'est très fort quand même, parce que entre l'amour qui existe entre le Père et le Fils, c'est quelque chose qui est très fort, mais le Père nous a aimés comme il a aimé le Fils. Et on se rappelle aussi toutes les paroles dans l'ensemble de ces chapitres où on voit que le Fils aime le Père et garde ses commandements, puisqu'il dit à ses disciples « Demeurez dans mon amour, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements du Père » et que je demeure dans son amour. Donc cet amour partagé entre le Père et le Fils, nous sommes aussi invités à le partager en aimant Dieu et en gardant ses commandements, en nous aimant les uns les autres. Et donc, je pense que ces versets et l'ensemble de ces chapitres nous donnent une vision de ce que peut être la relation avec Dieu, la vie avec Dieu, la communion fraternelle, une perspective de l'éternité, et que toutes ces données, tous ces thèmes, qu'on peut bien sûr creuser et dont on peut se délecter, nous donnent la force, la puissance, la persévérance de traverser les difficultés de la vie et nous prépare si jamais la situation évolue et qu'on est plus persécuté dans notre pays. Souvenons-nous que le Seigneur nous a donné des ressources et des raisons d'espérer. Nous sommes intégrés, donc, en quelque sorte, à cette Trinité, tout en restant bien sûr des créatures. Et donc acceptons aussi d'être identifiés à Jésus dans ses souffrances, dans sa persécution, dans la haine que le monde a pour lui. Et juste pour rappeler aussi qu'on voit aussi dans ces chapitres et ces versets le souci de Dieu pour le témoignage. On a vu que le Saint-Esprit témoigne et témoigne à travers nous notamment. On voit aussi que le Seigneur il a le souci au verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc il y a déjà le souci de ceux qui croiront par le témoignage des disciples. Donc il y a encore ce souci aujourd'hui que d'autres croient et soient intégrés eux aussi dans cette unité parfaite. On voit aussi que cette unité a un impact sur le témoignage, puisqu'il nous est dit au verset 23 afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Donc notre unité aussi a pour but de faire connaître le Seigneur. Et on se rappelle aussi que à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc cet amour fraternel qui reflète les relations au sein de la Trinité a aussi un impact sur le témoignage. Donc toutes ces choses sont imbriquées les unes dans les autres et je vous invite à continuer de lire et méditer ces chapitres. Pourquoi pas les apprendre par cœur? Ça sera un bel exercice pour vous de répétition, de méditation. Et on n'a pas fini de creuser toute la richesse de ces chapitres. Voilà, donc je voulais partager ce petit message avec vous. Et maintenant, donc, on passe à la deuxième partie de l'exposé de ce matin, qui est plutôt une présentation de nos activités en Afrique du Nord.